Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, plutôt chères auditrices, chers auditeurs d'Element Air, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission de ce mois de janvier 2022. Et oui, ça avance, les années passent et on en apprend toujours de plus en plus sur cette qualité de l'air, cette qualité, bien entendu, dont on a besoin pour se sentir mieux, pour bien respirer, pour être en bonne santé. On ne le dira jamais assez, être en bonne santé, ça passe par bien s'alimenter, que ce soit notre nourriture. Et notre nourriture, elle est évidemment ce que l'on a à chaque repas, chaque jour, mais par contre, elle est surtout aussi sur ce que l'on boit et sur ce que l'on respire. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, pour préserver notre qualité de l'air, bien entendu, on n'hésite pas, on continue de s'informer, on devient des actes air. Ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant. On s'informe pour bien agir. Et pour bien agir, aujourd'hui, par exemple, vous pouvez aller consulter le site du ministère de la Santé. Et notamment, il y a une petite fiche qui s'appelle l'air intérieur. Comment avoir un air intérieur plus sain et quels bons gestes adopter. Pour parler de bons gestes, on peut évoquer tout simplement l'aération tous les 10 minutes dans nos logements, puisque les systèmes de ventilation mécanique, qu'elles soient hygroréglables, autoréglables, qu'on ait à faire de l'extraction, qu'on ait à faire de la ventilation par insufflation, qui est un système aussi extrêmement efficace, ou de la double flux, on a besoin de renouveler notre air, de s'assurer qu'il fonctionne bien. On va également faire attention à aérer davantage quand on bricole, quand on prend des douches. Tous ces gestes-là sont extrêmement importants. Quand on est également une maman enceinte qui va donner la vie, il faut être vigilant à cette qualité de l'air, aussi que l'on soit en conception ou quand on allaite. Et puis, on va éviter toutes ces, expositions aux produits chimiques, on le sait très bien, qui sont plutôt néfastes. Mais il y a tellement, tellement de sujets. Pour parler de ce sujet, pas des produits eux-mêmes, pas des polluants eux-mêmes, mais de nos comportements. C'est important. Le logement doit être un outil à notre service pour prendre soin de notre santé. Mais cet outil, il va être efficace si nous, on pratique les bons gestes, si on a les bonnes habitudes ou si on se donne les bonnes habitudes. Et quelquefois, ça nous nécessite un petit effort ou un gros effort, selon. Mais il faut surtout pas passer à côté. Alors, pour cela, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphane Labranche. Bonjour Stéphane.
Bonjour Nicolas.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Très très bien. Comment respirez-vous ? Parce que c'est le but de l'émission de bien respirer. Oui, Stéphane. On va avoir une petite question. La première, c'est vous êtes membre du GIECO. On va parler un petit peu de vous au départ, et bien entendu. Alors, qu'est-ce que le GIECO IPBC ? Vous allez nous détailler un petit peu ce que vous faites, puisqu'on va parler de comportement, et m'est avis qu'on va suivre cette voie avec vous.
Oui, en fait, le GIECO, c'est un peu le parallèle du GIEC pour le climat, c'est-à-dire, ou l'IPBES pour la biodiversité. C'est un groupement international de scientifiques, mais on ne bosse pas sur le climat ni sur la biodiversité. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont tous les facteurs qui peuvent expliquer les changements et les non-changements de comportement et de pratique. Et donc, ça peut être toutes les choses qui se passent entre nos deux oreilles, nos valeurs, nos représentations sociales, nos perceptions, notre idéologie. Mais ce qui se passe entre notre deux oreilles, ça s'inscrit aussi dans un quotidien fait de courses, de mobilité, de préférences alimentaires et du bâtiment dans lequel on vit aussi. Donc, nous, on essaie de comprendre tous ces facteurs-là pour essayer d'en tirer des conclusions, peut-être transversales, multidisciplinaires, mais aussi éventuellement des préconisations pour améliorer notre qualité de vie et donner un petit coup de pouce à la transition.
Alors, cette transition, justement, on a toujours en tête de se rappeler que si on prend pas soin de notre qualité de l'air, elle est dégradée. On a un nombre conséquent de décès qui sont chaque année. Mais on n'a pas que ça. On va pas parler de cela aujourd'hui. Mais on a aussi des effets directs et indirects qui sont associés à des problématiques de santé, des problématiques d'être et qui sont pas forcément jusqu'au décès, mais qui ont aussi leur impact. Et on va se retrouver sûrement avec des logements qui vont devoir être à notre service. On pense à peut-être à des enfants qui sont lourdement affectés. On le sait qu'ils le sont de plus en plus jeunes maintenant sur des problématiques respiratoires. Et il va y avoir le besoin de la famille, le besoin des proches pour s'en occuper. Mais il va y avoir aussi besoin de notre logement ou nos lieux de vie à côté qui vont devoir être en bon sens par rapport à ça. Puisque c'est assez lourd. Dites-nous-en un petit peu plus.
Ben, en fait, sur ces effets un peu secondaires, moi, je vais vous prendre simplement un exemple très personnel, le mien. Mon fils avait tendance à avoir des infections ou des problèmes plus respiratoires quand il était petit, dont les bronchiolites, qui sont apparemment bien, bien associés aux questions de notamment de particules fines, de qualité de l'air. Moi, je me souviens la première fois que j'avais été voir un kiné avec lui pour lui faire faire un massage des bronches en profondeur. C'était assez éprouvant en tant que papa. Et ensuite, il faut rester à la maison pendant 2, 3 jours parce que l'enfant ne peut pas aller à la garderie ou pas parce qu'il ne peut pas aller à l'école. Donc, ça veut dire que moi, en tant que parent, je devais rester à la maison pour m'en prendre soin et travailler en même temps et faire tout le reste. Et donc, ça, c'est des petits effets qui sont plutôt mal répertoriés, en fait, dans les grandes études, surtout parce que ces études visent ben, le nombre de morts ou le nombre de jours de travail qu'on a raté, et ce sont souvent des facteurs un peu économiques, mais tous les autres facteurs un peu plus sociologiques, un peu plus d'impact sur les relations sociales, les interactions, ça c'est plus difficile à évaluer. Et donc, mais ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier et qui, depuis le Covid, on commence à se rendre compte qu'ils sont de plus en plus importants.
On voit notamment le nombre de personnes un petit peu qui ont ce phénomène d'isolement de plus en plus fort et qui se vit de plus en plus mal hein, par rapport à justement à ces confinements et à cette demande de se dire bah aimez-vous on dit aimez-vous les uns les autres mais à un moment donné là on dit vous rapprochez pas trop près les uns des autres donc c'est un peu antinomique. Alors pour cette qualité de l'air, justement, nos comportements, qu'est-ce qu'on a tendance, peut-être, est-ce que vous avez pu remarquer ou étudier, qu'est-ce qu'on a dans nos comportements, des choses qui, naturellement, sans y réfléchir, un petit peu comme le fait que nous respirons, on ne réfléchit pas pour respirer, hein, c'est un réflexe naturel. Quels sont, en tant que nous, êtres humains, nos réflexes, je dirais, pratiques et bénéfiques, pour nous? Et à côté de ça, bah, quels sont peut-être aussi des effets qu'on a tendance à pratiquer et qui sont, moins efficaces ou plutôt dégradants pour nous?
Ben, je vous explique rapidement. En fait, j'ai fait plusieurs projets de recherche et notamment avec des prêts de microcapteurs. Donc, c'est des gens qui se promènent avec des petits boîtiers et qui mesurent la qualité de l'air, particules fines. On ne parle pas des autres types de pollution de l'air intérieur ou extérieur, mais des particules fines et qui, en fait, se retrouvent face avec une appli à regarder en temps réel le niveau de particules fines dans leur maison, dans leur voiture et tout. Et je vous dis ça parce qu'en fait, certaines des mesures qu'ils ont faites viennent renforcer certaines croyances correctes dans la culture populaire qui dit que, en fait, ben, quand on ouvre les fenêtres, effectivement, on remarque une différence. C'est-à-dire que si on fait aérer, ben, en fait, ça va bien et en général, on va assainir, particules fines bien entendu, on va assainir l'air intérieur. Donc ça, c'est passé dans la culture courante. La plupart des gens le font.
On va diminuer le taux de CO2 aussi, évidemment.
Oui, ben, en hiver on le fait moins parce que ça fait rentrer l'air froid et puis que ça dit, puis que c'est pas agréable, puis que ça nous coûte cher en facture, donc on n'ose pas. Mais effectivement, c'est une chose qu'on fait. Il y a d'autres choses que les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas jusqu'à ce qu'ils le voient sur leur microcapteur. Vous faites cuire des crêpes, vous faites frire, vous faites cuire des toasts. Vous faites griller du pain, vous faites tout ça, et là, les gens regardent les taux de particules fines exploser dans leur cuisine. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas connu du tout dans la population en général et qu'il faut voir pour le croire, quoi. On a eu un couple assez âgé qui s'engueulait depuis une quinzaine d'années, en fait, sur le fait qu'il faisait trop griller son pain. Elle lui disait tout le temps que c'était pas bon pour lui ni pour la santé, etc. Elle lui disait, mais non, c'est du pain grillé, c'est pas grave. Et donc, ben, c'est elle qui a gagné parce qu'avec un microcapteur, avec la visualisation, on peut lui montrer que son truc était monté à 90 et que c'était beaucoup trop. Et donc, depuis, ben, il fait beaucoup moins griller son pain.
Alors, on peut dire que donc pour une bonne qualité de l'air chez soi, c'est une bonne qualité également pour améliorer les relations au sein des couples. C'est
Je
une
pense
bonne
que ça a amélioré la relation parce que ça a réglé un petit débat. L'autre anecdote qui nous a été relayée plusieurs fois, ça a été la question de faire cuire des crêpes. Quand on fait cuire des crêpes, on a une famille, il y a plusieurs enfants autour de la table, et puis là, on fait cuire les crêpes, et là, au bout de 10 minutes, on se rend compte que le niveau augmente. Et à la grande surprise négative des gens, c'est que ça a pris 20 minutes avec les fenêtres et les portes ouvertes, complètement ouvertes, avec le courant d'air pour faire redescendre le niveau de particules. Et donc, cette observation en live, en in situ, là, on est dedans, on est en train de faire notre truc, on sait à quoi est dû les particules qu'on le mesure. Ça a un effet très très fort sur la conscience des gens et aussi sur leur pratique. Ce qui n'est pas facile à faire, parce qu'en fait, souvent on présume en matière d'environnement, que ce soit qualité de l'air ou autre chose, que si on informe les gens que ce n'est pas bon pour eux, ils arrêtent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous savons tous que nous devrions manger beaucoup moins de viande, qu'on ne devrait pas fumer, qu'on devrait moins boire, qu'on devrait faire plus de sport.
Et on le fait quand même.
Voilà. Donc, mais là, on a constaté dans les études qu'on a menées, notamment avec Atmora ici à Grenoble, sur ces questions-là, qui est effectivement sur la question du chauffage au bois, sur la question de la cuisson, sur la question de l'encens, de la vapeau, de faire, comment on l'appelle, les liquides qu'on fait les espèces de liquides qu'on branche sur l'électricité.
Les huiles essentielles.
C'est ça, les huiles essentielles, mais électriques, pour que ça puisse diffuser, les diffuseurs, que les diffuseurs aussi faisaient des particules. Et ça secoue un peu les croyances, et ça secoue un peu ce qu'on a envie de faire aussi comme pratique. Autant sur les questions de mobilité, ça ne change pas grand-chose, en fait, les études le montrent. Autant sur les pratiques intérieures, on voit, en fait, des effets de la mesure, de l'évaluation par soi-même de ce qu'on a, de ce qu'il faut faire dans une maison pour améliorer sa qualité.
Ce qui veut dire donc, Stéphane, qu'à un moment donné, l'action, je dirais, de ces appareils de mesure va nous aider à prendre plus facilement conscience pour mieux agir.
Oui, ça marche assez bien. Mais attention, c'est parce que ce sont des gens qui font eux-mêmes les mesures et qui les voient eux-mêmes, qui sont capables de les situer par rapport à leur propre pratique. Et ça, ça fait une différence. L'autre différence que ça fait, c'est que si jamais vous avez la collectivité territoriale qui vous dit « faites attention ici parce que c'est pas très bien, parce que c'est pas bon », les gens vont plus ou moins écouter. Si vous avez un citoyen qui montre à un autre la pluie, regardez où on est, alors regardez, ben ça c'est à cause de ça, ah ben là, ça a un effet plus important.
Donc, est-ce qu'on va pas risquer d'avoir un effet quelque part? C'est vrai que plus on peut avoir cette information, alors plus ou moins fiable, hein, c'est le vrai enjeu de ce que l'on doit suivre aussi, parce que nos appareils doivent être à notre service, hein, faut pas faire l'inverse, la machine est au service de l'homme et pas l'inverse, même si c'est nous qui la mettons en route. Mais par contre, est-ce que ça va pas avoir peut-être à un moment donné un effet trop anxiogène qui peut nous amener à se dire finalement on est foutu ou c'est comme ça et ça sert à rien de faire mieux?
Les êtres humains sont des gens intéressant, c'est pour ça que je suis sociologue et non pas technologue. Alors, on a posé cette question-là de l'anxiété. On a eu des réponses hyper intéressantes. Tout d'abord, il y a une des femmes qui avait eu son micro-capteur pendant 2 semaines et pendant 2 semaines était dans le rouge. On avait un pic de pollution à Grenoble depuis ces 2 semaines. Et le dimanche, ça tombe dans le jaune, voire même le vert. Elle ne comprend pas pourquoi. Donc, elle a ramené le capteur le lundi pour dire le capteur semble faire défaut, il ne marche pas, il ne fonctionne pas. Je dis, pourquoi il ne fonctionne pas? Ben, regardez, il était dans le vert, ça fait 2 semaines qu'il était dans le rouge. J'ai dit, non, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plu depuis hier, et en fait, ça a nettoyé le ciel, et donc votre capteur marche très bien. OK, ça, c'est une première chose. Mais j'ai dit, mais le voir dans le rouge, comme ça, ça ne vous a pas angoissé pendant 2 semaines? Elle dit, non, on était à Grenoble, c'est normal. Voilà.
Et ça, on peut répéter que Grenoble est quand même une particularité géographique d'être dans une cuvette et d'avoir une stagnation de particules qui est quand même relativement forte. Et on peut toujours aussi féliciter, je dirais, l'agglomération grenobloise qui œuvre énormément pour tenter et améliorer tout cela. Hein.
Ah oui, sur ces questions de qualité d'air, Grenoble est vraiment en avance en termes innovants, en termes de mesures à mettre en œuvre. Mais ça, c'est une réponse qu'on a eue sans arrêt. Mais on a eu d'autres réponses inverses. C'est des gens, en fait, qui ont passé 10 jours avec leur capteur, qui n'avaient que du vert et du jaune, et arrivaient très déçus de ne pas avoir connu du rouge parce qu'ils voulaient savoir de quoi ça avait de l'air. Est-ce que, en voyant du rouge, là, est-ce que ça veut dire que je peux sentir dans ma respiration? Est-ce qu'en montant les escaliers, je vais être plus essoufflé que d'habitude? Est-ce que si je prends une marche ou que je fais du vélo, est-ce que ça va être plus difficile? Et en fait, ils étaient déçus de ne pas avoir du rouge. Donc, c'est l'inverse de l'angoisse. Donc, on les a pressés un peu sur cette question de l'angoisse. Et à Grenoble, du moins, ce n'est pas un truc qui émerge. C'est ça qui est c'est intéressant. Parce qu'on s'y attend, parce qu'on vit avec, et que finalement, c'est peut-être pas si pire que ça non plus.
On ne se rend peut-être pas compte des effets dans un temps immédiat, c'est du long terme. C'est peut-être pour ça aussi. On s'en rend compte finalement.
Oui, il y a un peu de ça aussi, mais moi, je travaille sur ces questions-là depuis 2012, hein, ça fait presque 10 ans sur Grenoble, et on voit que le niveau de compréhension générale de la population sur ces questions de qualité de l'air s'est amélioré sur différentes études.
Très bonne nouvelle.
Ils comprennent mieux, et ils savent aussi, en fait, que les niveaux de pollution diminuent avec le temps. On a encore des périodes, mais quand on compare à ce qu'on avait il y a 10 ans, on est rarement en épisode de pic de pollution selon les normes européennes. Et l'idée même à Grenoble, c'est maintenant, c'est d'améliorer et d'être en dessous des normes de l'OMS qui sont quand même plus strictes.
Alors, les normes de l'OMS, pour le rappeler, hein, depuis le 22 septembre dernier, elles ont été drastiquement réduites et on est passé quand même, on a divisé par deux, hein, les niveaux de particules, par exemple, hein, auxquels on doit être exposé. Et tout ça, ça prend en compte cette exposition instantanée ou cette exposition à long terme. Moi, j'ai un souvenir, je vais faire un petit peu appel à il y a quelques années, pour parler de Grenoble, justement, et je dirais de cette action et peut-être de la sensibilisation des personnes. Je me souviens d'une maman qui m'avait téléphoné et qui m'avait demandé dans mon métier, je souhaite déménager, habiter autour de Grenoble dans telle commune, est-ce que la maison que je vais acheter va être dans un endroit qui va être bon pour mes enfants, pour ces enfants qui allaient naître d'ailleurs aussi, elle était enceinte de jumeaux, et de se dire, mais je veux être dans un endroit qui prend soin de moi finalement, où au moins je ne suis pas trop exposé. Et c'est vrai qu'on a toujours entendu parler de cette région qui est très active sur ce sujet, et c'est vrai que ça se rapproche, et ce serait bien que partout, tout le monde prend de plus en plus conscience. On ne demande pas que tout le monde soit des hyper spécialistes, mais qu'au moins, petit à petit, on pose notre pierre pour avancer et pour mieux faire, bien évidemment, pour notre qualité de l'air. Est-ce que, ouais, Stéphane, notre nature humaine également, nous amène à penser sur certains plans par rapport à cette qualité de l'air, des choses qui vont nous amener à faire du négatif, peut-être, dans nos habitudes de vie? Est-ce qu'il y a des choses où on pense bien faire et finalement, on s'engage dans une voie où on devrait faire autrement, peut-être parce que notre nature humaine nous amène vers ça? Est-ce que vous avez un ou deux exemples sur ce sujet?
La nature humaine, je ne sais pas, mais ce qui est très clair, c'est que justement, la question des assainisseurs d'air, l'encens, qui sont interprétés, perçus comme étant des choses qui vont purifier l'air, qui vont améliorer la qualité de l'habitat, qui vont améliorer peut-être que ça améliore le mood dans lequel on se sent, parce qu'on se sent plus dans un cocon, mais de l'encens, ça demeure quand même une manière de brûler quelque chose à très basse température et donc qui va naturellement émettre plus de particules.
Voilà. Il y a des résidus de combustion, là, c'est évident.
Voilà. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. L'autre chose aussi, c'est tout ce qui concerne la cuisine, mais là, c'est pas la même chose. Quand on cuisine, on n'a pas l'impression d'avoir un impact sur la qualité de l'air. Donc, dans le cas de l'encens, on a l'intention d'avoir un impact positif alors que ça a un impact négatif. Mais sur d'autres comportements, c'est juste qu'on ne fait pas le lien, en fait.
D'accord. Donc, c'est autre chose encore. Il va falloir commencer à penser à vraiment un peu plus à chacun de nos actes, évidemment. Bon,
et la bonne... un dernier enjeu qui est pour moi très important, c'est la question du brûlage du chauffage au bois. Parce qu'un des problèmes qu'on a eu en 2014 et qu'on continue à avoir un petit peu, c'est cette confrontation avec la représentation sociale dominante sur la question du chauffage au bois. C'est que parce que le bois est naturel et que ça sent bon, ça ne peut pas être nocif pour la santé.
Voilà une idée reçue qui fait bien de casser.
Hein, puisqu'on... Voilà, exactement. Et ça, c'est un exemple parfait de la question, en fait.
Alors, écoutez, Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. On est obligé de donner une fin à cette émission. On en parlait avant de démarrer. On est capable de tenir 3 ou 4 heures. On ne va pas infliger ça à nos auditeurs et nos auditrices. Par contre, il est vrai qu'on va se retrouver. Moi, j'apprécie énormément que vous ayez pu vous libérer pour venir avec nous et nous expliquer tout cela. Mais surtout, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre que on prend de plus en plus conscience et que petit à petit, on progresse. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, à un moment donné, on va avoir une bascule où finalement, tous ces petits points positifs vont nous amener une bascule plus importante auquel on ne s'attendait pas, mais qui va être, je dirais, salvatrice. Hein, petit à petit, on fait notre chemin. Et l'important, c'est pas de mettre un pied en arrière, mais toujours de progresser, même si on va quelquefois où on paraît ne pas aller assez vite. Stéphane, membre du GIECO, hein, sociologue, je vous remercie encore d'être venu nous retrouver. On se retrouvera une autre fois sur Radio Imo et pour Element Air, hein, puisque le but, c'est de suivre, je dirais, nos invités et de suivre cette amélioration de notre qualité de l'air, puisque c'est pour ça que l'on agit et que l'on est là avec vous chaque fois, dans chaque émission. Stéphane, merci encore.
Merci, juste une pour annoncer que FIMEA et le GIEC vont faire je vais faire une petite conférence sur la même question des comportements et de la qualité de l'air le 28 janvier. Donc, vous pouvez aller voir sur le site du FIMEA ou du GIEC. Ça va être une petite conférence le matin, 8h30, style déjeuner. Voilà.
Très bien. Et la FIMEA, on le rappelle, Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Merci encore à vous.
Merci beaucoup.
Restons tous à s'informer pour bien agir. Soyons des actes R, conscients, consciencieux et dans le temps. Merci à vous. Au revoir, mesdames, messieurs, et à bientôt sur Élémentaire.
Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.